Vous écoutez France Culture.
Et le journal vous est présenté par Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour Tiffaine, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, Jean-Pierre Bemba ne pourra pas se représenter à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Sa candidature a été jugée irrecevable par la commission électorale. La tension est montée d'un cran dans le pays. Les explications d'Aurore Jarnoux dans ce journal. Les États-Unis retirent 200 millions de dollars d'aide aux Palestiniens, une décision qualifiée d'anti-paix par les autorités palestiniennes. À Tel Aviv, nous retrouvons notre correspondante Marie Semelin. Voyage compliqué pour le pape François en visite en Irlande ce week-end. Sa parole est très attendue après les révélations de nombreux scandales de pédophilie partout dans le monde, y compris en Irlande. Enfin à Marseille, des élus de tous bords présents aux amphithéâtres de la France insoumise, communistes, écologistes, socialistes et républicains sont invités à débattre. Nous retrouvons sur place notre envoyée spéciale Sophie Delpont. Jean-Pierre Bemba ne pourra pas se représenter en République démocratique du Congo. Le chef de l'opposition, emprisonné pendant 10 ans à La Haye pour crime de guerre, a fait un retour triomphal dans son pays le 1er août dernier. Jean-Pierre Bemba avait en effet été acquitté en appel. Bonjour Aurore Jarnoux.
Bonjour à tous.
Jean-Pierre Bemba a donc pu déposer sa candidature pour le poste de président, mais la commission électorale l'a jugé irrecevable.
Oui, car Jean-Pierre Bemba a été encore condamné par la Cour pénale internationale pour cette fois subornation de témoins. L'ex-chef de guerre aurait fourni de faux documents et versé de l'argent pour obtenir son acquittement dans l'affaire des crimes de guerre. Mais selon l'opposition, cette décision est encore une manœuvre du président sortant, Joseph Kabila, qui lui ne se représente pas, pour garder la main mise sur le scrutin. Un avis partagé par Thierry Vircoulon pour le chercheur de l'Institut français des relations internationales. On se dirige vers une nouvelle élection volée en RDC.
Sont écartés par le pouvoir Moïse Katumbi, qui lui ne peut pas rentrer en RDC. Et celui qui a réussi à rentrer, Jean-Pierre Bemba, a sa candidature écartée à la CENI, ce qui signifie qu'il ne reste plus comme grand nom de l'opposition que Félix Tshisekedi, qui des trois est probablement celui qui est le moins populaire. Donc on voit que le pouvoir est en train déjà d'arranger une élection en sa faveur.
L'ensemble des opposants accusent en effet le gouvernement d'instrumentaliser la CENI pour permettre à son candidat d'être élu, ce qui, selon toute vraisemblance, va être le cas, selon Thierry Vircoulon.
Pour le moment, toutes les cartes sont dans la main du pouvoir. Maintenant, il est clair que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi n'ont pas d'autre choix que d'appeler à voter pour Félix Tshisekedi. Mais même avec une candidature unique, est-ce qu'ils ont une chance ? Je ne le pense pas dans l'état actuel du système électoral.
Même si le dauphin de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, est un inconnu qui héritera de l'impopularité du président sortant. Si ce scénario se confirme, ça pourra entraîner de violentes manifestations. Alors Jean-Pierre Bemba a 48 heures pour faire appel. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle en RDC sera publiée le 19 septembre.
Et le scrutin aura lieu le 23 décembre s'il n'est pas encore une fois repoussé. Merci Aurore Jarnoux. Le Pérou resserre ses règles migratoires et cela vise particulièrement les Vénézuéliens qui fuient leur pays en proie à une grave crise économique. À partir d'aujourd'hui, il faut présenter un passeport pour se réfugier au Pérou. Or, la plupart des Vénézuéliens n'ont qu'une carte d'identité. La capitale péruvienne, Lima, a déjà accueilli 400 000 Vénézuéliens et prévoit l'arrivée prochaine de 100 000 nouveaux exilés. La décision était redoutée par les Palestiniens. Elle est donc arrivée. Les États-Unis annulent plus de 200 millions de dollars de leur aide financière. C'est ce que le département d'État a annoncé hier soir. Ne reste plus grand-chose de l'argent américain qui devait aller à Gaza et à la Cisjordanie. C'est un coup de massue annoncé déjà en janvier par le président américain Donald Trump qui avait fait cette menace si les Palestiniens ne revenaient pas à la table des négociations. À Tel Aviv, la correspondance de Marie Semelin.
Les responsables palestiniens ne décollèrent pas, c'est un chantage minable, a dénoncé Anan Ashraoui, une haute responsable respectée de l'Organisation de Libération de la Palestine. Il n'y a aucune gloire à constamment intimider et punir un peuple sous occupation, écrit-elle dans un communiqué. 200 millions de dollars, c'est la quasi-totalité du budget américain pour l'aide humanitaire et le développement alloué à Gaza et à la Cisjordanie. Il est désormais annulé, reversé ailleurs. L'argent était bloqué depuis janvier. dès janvier où les États-Unis avaient déjà drastiquement coupé leur contribution à un autre budget, celui de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. 250 employés ont dû être licenciés. Le président américain Donald Trump avait conditionné l'aide financière américaine à l'alignement des Palestiniens sur les positions américaines dans le conflit, accepter donc Jérusalem comme capitale d'Israël et revenir à la table des négociations pour discuter le fameux deal du siècle qu'il promet pour résoudre le conflit. Une pression financière qui n'a pas porté ses fruits pour l'instant. Les responsables palestiniens n'ont plus de contact avec Washington depuis des mois et refusent le rôle de médiateur que veulent se donner les États-Unis, les accusant d'être trop pro-israéliens. Avec cette coupe financière radicale, c'est d'abord Gaza qui est en première ligne. Gaza où la situation humanitaire est déjà désespérée et risque d'empirer.
Merci Marie Semelin. Hawaï est sous les eaux depuis hier. Des pluies torrentielles s'abattent sur l'archipel américain. Plusieurs milliers de personnes ont été contraintes d'évacuer. Des pluies dues à la lenteur de l'ouragan Lane, devenu hier soir tempête tropicale. Elle se déplace à 4 petits kilomètres heure, ce qui laisse craindre une aggravation de la situation ce week-end avec des inondations et un risque important de glissement de terrain. Le pape François en visite à Dublin en Irlande ce week-end. Ce voyage doit clôturer la rencontre mondiale des familles, mais l'événement risque d'être éclipsé par le dossier explosif et planétaire des révélations d'abus sexuels au sein de l'Église catholique. Dernier scandale en date aux États-Unis où plus de 300 prêtres prédateurs ont commis des abus sur un millier d'enfants. L'Église irlandaise connaît aussi de nombreux scandales, ce qui risque de compliquer le voyage du pape François, comme nous l'explique le vaticaniste Marco Politi.
L'explosion de la question de la pédophilie, encore une fois, va assombrir dans une certaine mesure les journées de Dublin qui devaient s'occuper de la famille dans la société moderne et l'importance des valeurs chrétiennes. Le pape François sera certainement sollicité à répondre sur la question, pas seulement aux victimes, mais surtout à l'opinion publique. L'opinion publique catholique, mais aussi l'opinion publique des gens des autres confessions ou des non-croyants attendent des mécanismes précis pour dire que des crimes doivent être dénoncés et que le prêtre coupable des crimes va expulser. Le pape doit revenir à son rôle de législateur suprême, comme il prévoit le code de droit canonique.
Marco Politi au micro de Mathilde Imberti. Tesla reste en bourse, c'est une annonce d'Elon Musk, le PDG du constructeur automobile ce matin. Une annonce quelques semaines après un de ses tweets controversés dans lequel il envisageait de retirer sa société de la cote boursière. L'action de Tesla avait depuis chuté de plus de 20%. À Marseille, les amphis d'été de la France insoumise se déroulent ce week-end avec le discours à 17h30 de Jean-Luc Mélenchon. Et pour le chef de file de la force politique qui se veut première opposition d'Emmanuel Macron, c'était aussi l'occasion d'inviter des députés d'autres formations politiques du Parti communiste jusqu'aux Républicains. Sophie Delpont.
Oui, bonjour. Avant ce discours de ce soir, Jean-Luc Mélenchon sera donc apparu comme celui qui fait dialoguer les oppositions cette rentrée politique. Cette présence est l'occasion de s'offrir une exposition médiatique, mais sans volonté de renouveler l'opposition élargie à Emmanuel Macron, concrétisée au moment de l'affaire Benalla, précise Marianne Dubois, députée Les Républicains. Le porte-parole du Parti Socialiste, Boris Vallot, est aussi venu participer à une conférence, mais il fuit les micros après les tacles envoyés par ses collègues du PS sur sa présence. Dominique Potier, député socialiste, est lui aussi invité.
Je suis pas venu pour transgresser un tabou, je suis venu de façon assez naturelle. Tous les gens qui, au centre et à gauche, sont en recherche d'une alternative authentique à l'ultralibéralisme et à la montée des nationalistes, ont intérêt à se parler.
Emmanuel Morel, député PS européen, réfléchit, lui, à un éventuel ralliement à la France insoumise en vue des élections européennes.
J'exclus rien, je pose un certain nombre de conditions. Je pense que si on veut peser dans le débat européen, il faut qu'on opère un certain nombre de ruptures radicales. Soit j'arrive à convaincre mes collègues et ça sera formidable, soit j'y arrive pas. Et en effet, je me poserai la question des conséquences à en tirer.
Cette ouverture de Jean-Luc Mélenchon depuis quelques mois porte la perspective de futures alliances, selon Régis Joannicot, membre du mouvement de Benoît Hamon.
Si on veut bâtir une alternative, ce ne sera pas aux élections européennes, parce que de toute façon, là, il y a des différences et on sait que les listes ont envie chacune de se compter les uns les autres. Mais par contre, pour les élections ultérieures, c'est-à-dire les élections municipales, les élections où il y a deux tours, et puis aussi après, dans un contrat de majorité, pour gouverner au niveau national, je ne vois que le rassemblement des forces de gauche. Donc c'est intéressant de commencer à en discuter dès maintenant.
Il déplore que la présence de députés de droite envoie un message brouillé, selon lui. C'est qu'il s'agit d'une première étape, le dialogue renoué, pas celui de la tambouille, selon l'expression de Jean-Luc Mélenchon.
Merci Sophie Delpont, vous étiez en direct de Marseille pour France Culture avec les moyens techniques d'Olivia Branger. Le temps de ce samedi, il sera gris cet après-midi sur la majeure partie du pays avec des pluies parfois passagères mais qui pourront durer jusqu'en soirée. Côté température, c'est plutôt frais pour une fin d'été. Le maximum sera à Nice avec 28 degrés. Ailleurs, il fera 18 degrés à Brest. Vous aurez 20 à Paris et Dijon, 22 à La Rochelle.